Allume la science. La science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.
Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. 130 000, c'est le nombre de bébés dans le monde qui ont contracté le VIH suite à une transmission maternelle au cours de l'année 2022 selon l'ONU-SIDA. Une femme vivant avec le VIH peut transmettre le virus à son enfant pendant la grossesse, mais aussi au cours de l'accouchement et surtout lors de la période d'allaitement. Sans traitement antirétroviral, ce risque de transmission mère-enfant se situe entre 15 et 30%. Avec un traitement, il chute à moins de 1%. Cette incroyable efficacité est bien sûr conditionnée. Il faut dans un premier temps que la mère ait connaissance de son statut sérologique. Un dépistage universel est aujourd'hui organisé, mais quid des femmes infectées au cours de leur grossesse ou au cours de l'allaitement. Il faut deuxièmement garantir à toutes un accès aux traitements antirétroviraux. Il faut enfin que la charge virale des mères séropositives soit inférieure ou égale à 1000 copies de virus par microlitre de sang. Or, une résistance aux antirétroviraux ou une mauvaise observance du traitement peut induire le maintien d'une charge virale élevée et donc le risque d'une contamination du bébé. En 2016, le consortium scientifique PROMIS, composé de chercheurs du centre hospitalier universitaire de Lusaka en Zambie, du centre Mouras au Burkina Faso, de l'université de Bergen en Norvège, de l'INSERM et de l'université de Montpellier, avait montré l'efficacité d'un médicament, la névirapine et ou l'amivudine. On y reviendra. Administré lors des premières semaines d'allaitement à des nourrissons nés de mères séropositives non traitées aux antirétroviraux, il réduisait très efficacement le risque de transmission du VIH. Ce même consortium a travaillé depuis sur un nouveau protocole d'intervention associant le dépistage des nourrissons et des mères à différents stades de la grossesse et de l'allaitement, la mise sous traitement antirétroviral de ces dernières et la mesure de leur charge virale, et enfin un traitement préventif des nourrissons tout au long de l'allaitement avec le médicament dont nous venons de parler. Leurs résultats ont été publiés dans le Lancet le 11 mars 2024. Notre invité est chercheur à l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche médicale, dans l'équipe PCCEI, pathogénèse et contrôle des infections chroniques et émergentes. Il est également chef du service d'information médicale, épidémiologie et données de santé au CHU de Montpellier. Il a bien sûr participé à cette étude menée au Burkina Faso et en Zambie. Et nous sommes très heureuses de l'avoir avec nous en studio aujourd'hui, Nicolas Nago. Bonjour et bienvenue dans Allume la science.
Bonjour à vous, merci beaucoup pour votre invitation.
Également en studio avec moi pour mener cette interview, Aline Perriot. Bonjour Aline.
Bonjour tout le monde.
Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55, 54...
Alors pour commencer, Nicolas Nago, on peut peut-être faire un point sur un point de situation donc sur le sida en Afrique, puisque l'étude a été réalisée au Burkina et en Zambie. Est-ce que l'épidémie est encore très active aujourd'hui ?
Malheureusement, l'épidémie est encore très active en Afrique subsaharienne, à la fois en Afrique australe, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, bien que des progrès majeurs aient été faits, notamment à travers l'accès aux antirétroviraux hein, que nous connaissons tous, et qui ont permis de réduire très largement la mortalité liée au VIH au cours des 20 dernières années. Il reste beaucoup, beaucoup de monde qui n'est encore pas dépisté et qui n'est encore pas sous traitement. Beaucoup d'adultes avec, en Afrique du Sud par exemple, ou en Afrique australe, voire en Zambie, un nombre de personnes qui s'infectent annuellement qui reste encore inacceptablement très élevé.
Alors justement, comment on dépiste ?
Comment on dépiste les adultes, les femmes ont à travers le, et on va y venir, c'est le cœur du sujet d'aujourd'hui, ont la chance de pouvoir être dépistées pendant la grossesse. Les programmes sont quand même très largement efficaces et bien mis en place, bien acceptés par les populations. C'est plus difficile pour les hommes qui ont moins d'accès régulier aux services de santé et qui sont souvent testés via leur partenaire, en fait, qui les incite à venir tester, bien qu'il y ait des programmes spécifiques. Donc l'activité communautaire est importante dans ces pays pour promouvoir le dépistage, en particulier chez les jeunes et dans les groupes dits à risque.
Et en cas de sérologie positive, est-ce que l'accès au traitement il est facile ou...
Aujourd'hui, l'accès au traitement est relativement facile dans l'immense majorité des pays, sauf les pays, bien sûr, en situation de guerre ou de conflit. Mais l'accès au traitement est très largement subventionné. Les traitements sont gratuits grâce à des initiatives internationales comme le Fonds mondial, comme PEPFAR aux États-Unis. Qui permettent un accès à ces traitements assez large aujourd'hui. Oui.
Alors, on connaît bien sûr la voie sexuelle de transmission du sida, mais la transmission entre la mère et l'enfant pendant l'allaitement dont on parle aujourd'hui, elle est moins connue. Quand et comment est-ce qu'on s'est rendu compte que le bébé allaité pouvait devenir séropositif si sa mère l'était aussi ?
Alors, on s'est rendu compte de cette transmission par l'allaitement assez précocement dans les années 80. Et c'est Philippe Van de Peyre, qui est chercheur dans notre unité, qui a mis en évidence cette transmission par l'allaitement le premier. Et qui, toute sa carrière, a essayé de trouver des moyens de contrôler, de réduire, voire d'annuler complètement cette transmission. Jusqu'à cette étude aujourd'hui dont nous parlons.
Alors, Lucie l'a dit dans son lancement, c'est 130 000 bébés qui sont contaminés comme ça chaque année. C'est quoi les conséquences en termes de santé, leur espérance de vie à ces enfants ? C'est affecté comment ?
Les enfants infectés, soit pendant la grossesse, soit l'accouchement, soit pendant l'allaitement, et qui ne vont pas être dépistés, qui ne vont pas être traités, ont une espérance de vie très courte. On est à peu près 50% de mortalité à 2 ans. Et derrière, il y a très peu de survivants à 5-10 ans. Donc le pronostic est très sombre.
Et ce mécanisme par lequel il est contaminé pendant l'allaitement, il est connu ? On a du virus directement dans le lait maternel ?
Chez les femmes qui ne sont pas traitées correctement ou pas traitées du tout, du virus est effectivement présent dans le lait maternel sous deux formes différentes qui peuvent en effet contaminer l'enfant.
Alors, le traitement antirétroviral maternel universel est aujourd'hui disponible. Ce traitement, c'est une trithérapie classique ou il y a un traitement spécifique pour les mères ?
C'est le traitement du VIH de l'adulte classique. Il n'y a pas de traitement particulier pour prévenir la transmission de la maman à l'enfant. C'est vraiment le traitement habituel adulte qui maintenant est bien toléré et qu'on peut prendre sans problème pendant la grossesse.
Et une des problématiques, c'est l'observance de ce traitement. Alors qu'est-ce qui peut faire obstacle à cette prise du traitement ?
Alors, vous avez entièrement raison. La grande difficulté aujourd'hui est le dépistage. Le dépistage n'est plus une difficulté puisqu'il est mené, dans presque tous les programmes nationaux de façon quasi exhaustive au moment des consultations anténatales. La difficulté est pour les femmes qui vont découvrir leur sérologie pendant la grossesse, d'initier le traitement et de maintenir ce traitement qu'elles doivent prendre à vie, mais de le maintenir jusqu'à la fin de l'allaitement au minimum. Si on s'intéresse uniquement à la transmission à l'enfant. Plusieurs études montrent que parfois jusqu'à 30 à 50% suivant les pays des femmes n'ont pas une adhérence correcte à ce traitement à partir du moment en fait où elles vont commencer à introduire d'autres aliments que l'allaitement, donc quand l'enfant a entre 4 et 6 mois. Pourquoi ? Difficile de répondre à cette question. On sait que les femmes jeunes ont beaucoup plus de mal à être adhérentes. Les femmes qui ont peu de soutien familial, qui ne vivent pas en couple, ont plus de difficultés. Et puis d'autres pour lesquelles on a moins d'informations.
Alors déjà en 2016, ce même consortium, vous aviez montré qu'en donnant au bébé un traitement pendant l'allaitement, prévenir la transmission du VIH. Ce traitement, c'est quoi comme médicament et comment est-ce qu'il agit ?
Alors, ce traitement est un médicament antirétroviral qui n'est autre qu'une des composantes de la trithérapie que l'on donne à l'enfant s'il est infecté. Donc, c'est une seule molécule que l'on peut donner dès la naissance sous forme de sirop à l'enfant, qui est très bien toléré, très bien accepté par l'enfant. Et donc, c'est un médicament qui est maintenant très largement connu et qui ne pose pas de problème particulier.
Alors, on va rentrer plus en détail dans cette étude en particulier. Donc, elle a été menée au Burkina Faso et en Zambie. Il y avait une raison pour cibler ces deux pays ?
Alors, il y a une raison, scientifique, dans le sens où lorsque l'on évalue une intervention en santé, on fait en sorte qu'elle soit... qu'elle le soit dans des pays qui ont une épidémiologie du VIH différente, des systèmes de santé différents, et puis une population très différente. L'Afrique de l'Ouest et l'Afrique australe sont deux zones qui sont en tout différentes finalement, pas que sur la langue. Et donc il était important de voir si notre intervention était efficace dans ces contextes particulièrement différents. Ensuite, on a un historique au sein de notre unité de recherche, de collaboration très ancien avec les deux universités avec lesquelles nous avons travaillé, à la fois au Burkina Faso et en Zambie, une historique qui date de plus d'une quinzaine d'années.
Alors justement, dans ces relations que vous avez pu nouer, on connaît bien à Montpellier Chipepo Kankassa, qui est une pédiatre zambienne qui a reçu le titre de docteur honoris causa de l'Université de Montpellier pour ses recherches justement sur le VIH des enfants. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur cette femme très connue en Zambie ?
Alors cette Chipepo Kankassa est en effet une célébrité... à Lusaka et en Zambie, de par sa famille qui est très célèbre dans le pays, par sa maman, mais aussi et surtout par son action très précocement contre le VIH. Chipepo Kankassa est une pédiatre avant tout. Elle s'est attaquée à la problématique du VIH très tôt, au siècle dernier, et elle a développé et mis en place un centre d'excellence pédiatrique de prise en charge du VIH à Lusaka, qui est le centre national de référence et qui est aussi dans la sous-région un centre vraiment d'excellence où plus de 8000 enfants ont et sont toujours pris en charge. Donc une figure emblématique du VIH et de la recherche contre le VIH chez l'enfant.
Alors avec ce consortium de recherche Promise, vous avez donc conçu une stratégie d'intervention pour appliquer les meilleurs traitements au meilleur moment. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu le protocole précis que vous avez élaboré ?
Alors comme vous l'aviez mentionné plus tôt, nous avions donc en 2016 montré que ce traitement antirétroviral donné à l'enfant très tôt permettait de le protéger efficacement contre l'infection, quelle que soit finalement la quantité de virus ingéré à travers le lait maternel. La question suivante était quelle stratégie on utilise, quand utiliser ce traitement et pour quel enfant, parce qu'il est aussi quand même difficile de le donner à tous les enfants dont la maman est infectée par le VIH ou vit avec le VIH.
Juste pourquoi c'est difficile de le donner à tous les enfants ?
C'est difficile parce que c'est quand même un médicament antirétroviral qui a potentiellement des effets indésirables, qu'on ne mesure pas forcément à court terme, mais donner un médicament pendant un an, 18 mois, un enfant dès la naissance, pendant toute la période critique de ces fameux 1000 jours, de la période de développement, essentiel à l'enfant et peut pourquoi pas avoir quelques effets indésirables à moyen terme, même s'ils n'ont pas encore formellement été démontrés, c'est toujours une hypothèse. Donc on essaye d'avoir d'estimer la balance bénéfice-risque à chaque fois que l'on met en place une intervention. Et donc donner un médicament antirétroviral à des enfants qui n'en auraient pas forcément besoin. Par exemple, si leur maman prend bien son traitement antirétroviral et donc n'a plus de sang détectable, de virus détectable dans le sang, et donc dans le lait maternel, la plupart du temps, eh bien cet enfant n'a pas besoin de cet antirétroviral, il ne va pas s'infecter. Et donc l'idée de la stratégie que l'on a mise en place, c'était de cibler la prophylaxie, donc ce traitement antirétroviral préventif à l'enfant, en fonction de ce que l'on appelle la charge virale, donc de la présence de virus dans le sang de la maman ou pas. Et donc on a profité d'un moment de contact avec le système de santé qui est quasi universel, le moment de la vaccination. Alors c'est pas toujours le cas en France, mais en Afrique les mamans comprennent très très bien pourquoi il faut faire vacciner leur enfant et donc elles vont toutes j'adresse un petit message subliminal au passage, mais elles vont toutes sans problème faire vacciner leur enfant à partir de 6 semaines. Et donc on a profité de ce moment pour refaire un point sur la sérologie de la maman qui a pu s'infecter malheureusement depuis la grossesse. Donc on a vérifié son statut sérologique, on a pu récupérer des mamans qui n'avaient pas fait de visite anténatale également. Et une fois que l'on avait le statut VIH de la maman, si elle était positive, on a, avec un nouveau test rapide, on a pu déterminer à la fois si elle avait du virus présent dans le sang et si l'enfant était aussi infecté. Donc ces deux tests rapides peuvent se faire dans des centres de santé. On a le résultat en une heure et demie. Et au même moment, donc permettre d'initier soit le traitement de l'enfant s'il est infecté, parce qu'il faut le traiter le plus vite possible, ou si la maman a ce que l'on appelle une charge virale, donc détectable, donc du virus que l'on peut détecter dans son sang, eh bien on va initier le traitement préventif à son enfant. Donc c'est un petit peu le principe, c'était de mettre à disposition ces machines qui sont maintenant subventionnées par ces programmes internationaux qui financent aussi les antirétroviraux dans les centres de santé de l'étude.
Donc ces machines, c'est ce qui permet de faire un diagnostic rapide, c'est ça?
Exactement.
C'est la plateforme GeneXpert dont vous parlez.
C'est la plateforme GeneXpert que l'on a utilisée, il y a d'autres plateformes. Mais on a utilisé la plateforme GeneXpert qui est aussi la plus répandue en Afrique parce qu'elle est utilisée pour la tuberculose notamment. Ce sont vraiment des machines très largement répandues.
Combien de mères et d'enfants est-ce que vous avez suivi pour cette étude?
Alors pour cette étude, nous avons suivi à peu près 1500 mamans et leurs enfants que l'on a aléatoirement répartis en deux groupes. Un groupe suivait les recommandations nationales qui sont globalement celles de l'OMS en termes de prévention de la transmission à l'enfant. Et l'autre moitié a suivi l'intervention que je vous ai décrite.
Ces femmes, quel est leur profil? Est-ce que c'est des femmes qui sont plutôt urbaines? Est-ce qu'elles sont plutôt d'un milieu rural? Si c'est le cas, comment on les fait venir? J'imagine que les centres sont plutôt en ville.
Alors, nous avons mené cette étude en ville, en effet, dans les deux capitales, à Lusaka, donc, qui est la capitale de Zambie, à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, et aussi à Bobo-Dioulasso, la capitale économique du Burkina Faso, donc la deuxième ville du pays. Donc les femmes vivaient dans ces milieux urbains, en effet. Les centres de santé étaient dans le milieu urbain. On n'est pas allé les chercher, on les a attendues au moment de la visite de vaccination, en fait.
Alors, je reviens sur les recommandations actuelles de l'OMS. Elle recommande pour l'instant de donner ce traitement qui existe déjà, hein, qui est efficace, mais seulement pendant 6 à 12 semaines après la naissance. Mais est-ce qu'on sait en moyenne combien de temps un bébé va être allaité? C'est plus long que cette période?
C'est beaucoup plus long. En moyenne, au Burkina Faso et en Zambie, l'allaitement peut aller jusqu'à 24 mois. Il est en moyenne de 12 à 18 mois, finalement. Et donc, vous avez tout à fait raison de pointer cette discordance entre la durée du traitement préventif et la durée de l'allaitement, puisque le risque de transmission perdure jusqu'à la dernière goutte de lait absorbée par l'enfant. Donc, les recommandations de l'OMS manquent vraiment de stratégie pour adresser cette transmission jusqu'à la fin de l'allaitement.
Et justement, pour vérifier l'efficacité du protocole que vous proposez, vous avez regardé la proportion d'enfants séropositifs à 12 mois et vous les avez comparés avec ces programmes locaux dérivés des recommandations de l'OMS. C'est quoi les différences majeures entre ce que vous proposez et ce qui existe déjà ?
Alors, la différence entre notre intervention et celle de l'OMS, c'est que dans tous les cas, un enfant, pour les programmes nationaux de routine, un enfant va être mis sous traitement prophylactique, donc sous traitement préventif antirétroviral, pendant 12 semaines et pas plus longtemps. Même si sa maman est à risque de transmettre parce qu'elle ne prend pas bien son médicament ou qu'elle a toujours du virus présent dans le sang. Donc, évidemment, une transmission peut toujours survenir après ces 12 semaines. Donc, certains pays comme la Zambie recommandent d'étendre cette durée tant que la maman n'a pas une charge virale indétectable. Mais cette recommandation, qui était en place au moment où on a fait de l'étude, est très compliquée en pratique, puisqu'il faut avoir un accès au test qui détecte le virus dans le sang, qui est un test de biologie moléculaire, qui est un test compliqué, qui ne peut avoir lieu que dans des laboratoires centraux, et donc avec un retour des résultats qui est très long, qui peut prendre des semaines, voire plusieurs mois. Donc pendant ce temps, l'enfant n'est pas protégé et il peut s'infecter.
Alors, donc pour vérifier, à la fin du suivi donc, des enfants à 12 mois, dans votre groupe donc, qui avait bénéficié de votre protocole, un seul nourrisson était infecté par le VIH. Donc, est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'il était infecté ?
Ce nourrisson a été infecté parce que sa maman ne lui a pas donné le traitement préventif, tout simplement.
Donc, c'était une question d'observance.
C'était une question d'observance. Alors évidemment, notre intervention est liée au fait ne fonctionne que si la maman donne le sirop à l'enfant. Ça, c'est une évidence. Mais paradoxalement, ce que l'on observe et ce qu'on a bien documenté, c'est que finalement, les mamans, et c'est vrai en Afrique de l'Ouest, c'est vrai en Afrique australe, sont plus à même d'être adhérentes au traitement pour leur enfant que pour elles-mêmes. Donc une maman qui ne va pas bien prendre son traitement elle-même, ce n'est pas pour ça qu'elle ne va pas le donner à son enfant, qu'elle ne va pas donner le traitement préventif à son enfant. Elle est très concernée par le risque de transmission qui s'accompagne d'un sentiment de culpabilité, évidemment, et donc elle veut essayer de tout faire pour que son enfant ne puisse pas se contaminer. Et donc l'adhérence à ce traitement préventif de l'enfant, en fait, il est très élevé, beaucoup plus que celui du traitement des mamans elles-mêmes.
Alors dans le groupe contrôle, donc le groupe de nourrissons qui avait suivi le protocole de l'OMS, il y avait 6 enfants contaminés. Qu'est-ce qui rend votre programme plus efficace ? Qu'est-ce qui explique cette différence ?
Ce qui explique in fine cette différence, c'est que l'on a donné le traitement antiviral aux bons enfants. On a pu, en identifiant les mères les plus à risque de transmettre très précocement et en protégeant leurs enfants, on a pu donner le traitement antirétroviral aux bons enfants, en fait. Alors que dans le groupe contrôle, des enfants qui étaient à risque parce que leur maman n'avait pas une charge virale indétectable, eh bien ces enfants n'étaient pas sous traitement antirétroviral, encore une fois, parce que l'accès à ce fameux test de détection du virus dans le sang, il n'est pas satisfaisant. Et donc le rôle de ces machines que l'on appelle en anglais point of care, donc qui donne un résultat rapide, a été vraiment très important dans la stratégie pour identifier les femmes à risque très tôt et encore une fois permettre de protéger leurs enfants.
Alors très rapidement, parce qu'il ne nous reste plus qu'une minute avant la fin de l'émission, si votre programme a montré qu'il était efficace, est-ce qu'on peut espérer qu'assez rapidement, il devienne le programme standard appliqué dans ces pays-là sur le terrain ?
C'est vraiment notre grand espoir. C'est pour ça qu'on fait la recherche, c'est pour ça qu'on mène des recherches. Bien évidemment, c'est pour changer les politiques de santé. On a une intervention qui est efficace. Donc on espère que les recommandations de l'OMS vont changer. On est impliqué dans les groupes d'experts de l'OMS pour faire évoluer ces recommandations. Donc on croise les doigts et on fait tout pour que les recommandations changent, en effet.
Un grand merci Nicolas Nago pour cette émission et pour tout ce que vous faites.
Merci à vous et merci encore pour votre invitation.
Nous allons maintenant découvrir un nouvel épisode de LUMLU, les podcasts du magazine LUM, en écoutant Dans l'île du cyclone. Thomas Ibanez, chercheur au laboratoire AMAP, étudie comment les forêts tropicales résistent à ces vents dévastateurs.
Dans l'île du cyclone. Feuilles arrachées, branches brisées, troncs cassés, arbres déracinés. Quand le vent avoisine la vitesse d'un TGV, comment les arbres peuvent-ils résister ? Une question cruciale pour les forêts des îles du Pacifique Sud-Ouest qui affrontent chaque été austral entre 5 et 8 cyclones qui sculptent des écosystèmes insulaires. Comment les forêts tropicales survivent-elles face aux ouragans ? Pour mieux connaître ces écosystèmes, Thomas Ibanez, chercheur au laboratoire AMAP, a participé à une étude visant à analyser la résilience des forêts face aux cyclones dans 76 îles de Nouvelle-Calédonie, du Vanuatu, des îles Fidji, Samoa, Tonga et Wallis et Futuna. Entre 2000 et 2020, 74 cyclones ont parcouru la région avec des effets divers sur la végétation.
Nous avons voulu caractériser, en lien avec la force des cyclones, le degré de changement que la végétation a subi et le temps qui lui est nécessaire pour récupérer son état antérieur.
Explique le spécialiste de la conservation des forêts tropicales. Cette étude a mobilisé plusieurs disciplines, de la télédétection à la modélisation pour reconstituer le trajet des cyclones, la vitesse des vents et visualiser l'état des forêts avant et après les tempêtes.
Pour les vents les plus violents qui atteignent 280 km/h, les pertes en végétation atteignent 40% et le temps de régénération dépasse les 5 mois.
Et dans 20% des zones affectées par ces vents dévastateurs, la forêt ne s'était toujours pas régénérée au bout d'un an.
La résilience des forêts a des limites qui risquent d'être dépassées dans le futur, car avec le réchauffement climatique, les cyclones qui affectent cette zone pourraient s'intensifier. Non pas en fréquence, mais en force.
Le réchauffement des eaux de surface, qui sont le berceau des cyclones, aura une autre conséquence importante. La modification de leur trajectoire.
Certaines forêts qui étaient jusqu'à présent épargnées risquent d'être balayées par ces vents violents.
Comment des arbres qui n'avaient connu jusque-là que de douces brises vont-ils réagir dans la tourmente ?
Certains sont mieux adaptés, les petits et trapus, ceux qui ont moins de feuillage et donc moins de prise au vent.
Détaille Thomas Ibanez qui évoque aussi d'éventuelles stratégies d'adaptation au cours desquelles les arbres perdraient plus facilement leurs feuilles et leurs branches afin d'augmenter les chances d'épargner le tronc.
On souhaite également déterminer quelles sont les caractéristiques des arbres qui les rendent plus résistants, hauteur, diamètre, densité du bois. Mais il est difficile de mener des expériences destinées à simuler les contraintes des vents.
Pour être au plus près de ces forêts insulaires, Thomas Ibanez va poser ses valises pendant 3 ans en Nouvelle-Calédonie pour y étudier l'impact des cyclones sur la structure et le fonctionnement des forêts.
Les îles concentrent les enjeux de biodiversité. Elles ne représentent que 6,7% de la surface terrestre, mais abritent 20% de la biodiversité mondiale, 50% des espèces reconnues comme menacées, et 75% des extinctions connues.
Allume la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.